Après avoir vu le lac du Der et le lac d'Orient, nous sommes ici au large de cette vallée de la Seine, dans ce domaine des lacs de la Seine, entre Troyes et Chalon-sur-Marne. Et nous allons un instant nous replonger dans une France disparue, qui est la France qui va du Grand Maulne à l'après-guerre, qui est la France qui est marquée par 1914. D'abord, il y a tout près de Troyes, dans un arrondissement qui est l'arrondissement de Bar-sur-Seine, sur les bords de la Seine, un petit cimetière, qui est le cimetière des Soies. Et dans le cimetière des Soies sont enterrés les Renoirs. Alors on pense à Renoir, bien sûr, à cause de la règle du jeu, à cause de la grande illusion, qui est le grand film sur 1914. Auguste Renoir avait acheté une maison là-bas en 1895, dans le village de sa femme. Et c'est là qu'il repose, veillé par des bustes en bronze avec ses trois fils. Pierre, le comédien, qui fut aux côtés de Jouvet, l'Ulysse de la guerre de Troie n'aura pas lieu. Claude, le céramiste, qui fut d'abord le modèle de son père, Claude Renoir en clown, très belle peinture de Jean Renoir, et puis un résistant courageux. Et puis Jean, le cinéaste, dont on oublie trop l'extraordinaire Nuit du Carrefour, où son frère Pierre fut le meilleur commissaire Maigret porté jamais à l'écran, envoûté par Vina Winfried, et qui mourut à Beverly Hills, d'où il fut ramené ici, à Essois, au pays de son enfance. Il y a un manège à l'école militaire qui porte le nom du commandant Bossu. Bossu, à l'école militaire à Paris, Bossu commandait en 1914 un escadron du 1er régiment de dragons où servait Jean Renoir. Et une blessure de guerre devait le rendre boiteux jusqu'à la fin de sa vie. Et le capitaine de Boieldieu, de la Grande Illusion, doit, paraît-il, un assez grand nombre de ses traits, tels qu'on le voit interprété par Pierre Fresnay, au commandant Bossu. Et puis, ces années-là, c'est aussi les années où s'est formée l'expérience qui a donné lieu à un des livres les plus extraordinaires sur la guerre de 14. Un livre qui commence par un voyage manqué vers Troyes, près de là où nous sommes, et qui s'appelle « Ceux de 14 », qui est le grand livre de Maurice Genevoix. Jeune normalien, se destinant à l'enseignement, rien en lui du reître ou de l'amateur de combat, Maurice Genevoix est mobilisé le 2 août 14 comme lieutenant de réserve à la 8e compagnie du 106e régiment d'infanterie. Combattant de la Marne et des Éparges, grièvement blessé en 1915, il quittera le champ de bataille pour écrire ce livre qui deviendra « Ceux de 14 ». Ce qui est étonnant, c'est qu'il faudra assez longtemps à ce monument d'humanité, d'intelligence et de style pour se frayer un chemin entre ces véritables épaves littéraires que sont le feu de Barbus ou les croix de bois de Dorgelès, qui lui furent longtemps préférées parce qu'elles bénéficiaient simplement du soutien d'associations communistes ou patriotiques beaucoup plus puissantes et qui présentaient de la guerre, au fond, le visage que l'opinion voulait en avoir. Ceux de 14 est à l'opposé et défie absolument le commentaire et interdit toute forme d'utilisation politique. Il ne s'agit pas simplement d'un récit, il ne s'agit pas d'un roman, et on s'en convainc dès les 10 premières pages en lisant cet épisode qui se passe à peu près exactement où nous sommes, à 2 ou 3 kilomètres près, qui est la présentation sandwich en main à un général, peut-être Ruffet, entre Troyes et Chalon. Suivent un voyage en train qui rappelle les vers d'Aragon, les réfugiés, les regards qui se croisent, des soldats qui montent au feu et de ceux qui en reviennent, le sommeil mêlé des artilleurs et de leurs chevaux, la tristesse des blessés, et puis les paysans hostiles aussi, qui très loin de la mythologie exigent indemnité et réparation au moindre bris de clôture. Le lieutenant Genevoix croit que de là où nous sommes, il va être dirigé vers Troyes, sur les bords de la Seine, mais c'est à Verdun qu'il va, et il écrit « Croyez donc ce qu'on vous dit, ce mot, c'est la première tinette ». La tinette, qui définit les seaux dans lesquels on met les déjections, c'est à la fois les latrines et le mensonge officiel. On se demande bien ce qui a gardé enfoui ce chef-d'œuvre, peut-être l'allure de son auteur qui serait mieux aimé s'il était mort en jeune, en dormeur du Val, ou s'il s'était survécu dans l'allure d'un officier énigmatique et lettré à la Junger, au lieu de terminer comme un bon petit vieillard adonné aux grandeurs d'établissement, secrétaire perpétuel et coiffé du bicorne à plumes. Et puis il y avait chez Genevoix aussi ce côté un peu rabolio, cette esthétique de chasseur français, littérature de maro-canard qui n'est pas toujours extrêmement réjouissante. Et pourtant, ceux de 14, quand on le referme, eh bien on prend du petit vieillard en uniforme vert une idée toute différente. On voit, on souffre, on espère, on entend. On ne sait pas si c'est le champ de bataille qui ressemble à une symphonie de phrases courtes ou si c'est le récit qui se fait communiquer par une sorte de perfusion, la vie si fragile de l'auteur jusque dans ses ingrédients les plus matériels. Et nous y sommes. Nous y sommes partout. Pas seulement à la Marne, mais à toutes les Marnes et dans tous les souvenirs de tous ceux qui ont connu des batailles. Dans l'écho que le temps renforce, la paix revenue, les bruits de la guerre, formant cette espèce d'indestructible mélodie qui élève entre ceux qui ont connu ces moments et le reste de l'humanité un mur infranchissable que précisément est-ce à la grandeur de ce livre, L'art de Genevoix, abat par pans entiers. C'est alors que la vie mêlée de mort qu'il décrit devient la nôtre. Nous sommes ce jeune homme et cet écrivain. Nous découvrons la victoire ou la défaite apprise par hasard au détour d'un bois. La guerre est une porte confort en soi-même et hors de soi-même. Et de l'autre côté, nous attendent des sentiments nouveaux. Et d'abord celui-ci que Genevoix décrit magnifiquement, que si le corps peut beaucoup, il est absurde de lui demander autant. Et que cet absurde pèse le poids du drap uniforme, de sa douleur, surtout sous la pluie, de l'écœurement qu'on éprouve à en rester vêtu le jour comme la nuit, par tous les temps. Au fond, l'uniforme tel que Genevoix le décrit, c'est une drôle de tunique de Nessus, elle porte les médailles, le fer blanc de l'honneur, l'empreinte des balles, l'odeur des cadavres en putréfaction, la sueur glacée des paniques, la succession des intempéries qui sont le lot du fantassin à l'uniforme, c'est tout ce qui reste d'un homme menacé de dispersion, de décomposition, de retour à cette nature anéantie par l'industrie de la guerre, dans le retournement des paysages et la chute des grands arbres. Genevoix écrit « Il semble qu'un remous énorme se creuse à la place même où s'épanouissait sa ramure, un remous dans quoi tourbillonnent des myriades de choses légères, pêle-mêle dans un nuage de poussière dont parvient jusqu'à nous l'âcre senteur de temps. » La guerre est d'abord une hallucination. Genevoix parle admirablement des hommes qui ont partagé avec lui ce cauchemar, Comte, Pamchon, Vautier, auxquels la discipline militaire fait comme à lui une étrange seconde nature, jusqu'à l'instant où le destin frappe. Et il écrit cette phrase bouleversante. « Vous tous qui l'avez fait, vous savez, si c'est un dur voyage. La nuit vient, au-dessus de soi, contre soi, on devine d'autres brancards où s'allongent des formes humaines. À chaque chaos, elle crie. On s'énerve de les entendre. On se dit, pourquoi ces hommes crient-ils si fort ? Un autre chaos, plus violent, fait monter des cris plus farouches. L'un de ces cris a retenti tout près. Qui est là ? Qui a crié ? Et l'on songe tout à coup. C'est moi. Entre Troyes et Chalon-sur-Marne, nous pensons à toute cette expérience, à toute cette douleur humaine que la coupole du Panthéon, si jamais on l'y transporte, ne parviendra jamais à étouffer complètement. »